Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30.
Bénédicte Tassard.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans RTL midi. Une demi-heure pour décrypter l'actualité de ce vendredi 19 octobre. Ils se pressent tous pour avoir quelque chose de Johnny. C'est l'événement du jour, la vente de Mon pays, c'est l'amour. L'album posthume du chanteur décédé le 5 octobre, décembre dernier. Il y a les fans, il y a aussi ceux qui sont tout simplement touchés par le destin de la rockstar. Une proche de Jean-Luc Mélenchon, au cœur de l'enquête sur les comptes de campagne de la France insoumise, Sophia Chikirou, entendue depuis ce matin par les enquêteurs. L'entourage de Karim Benzema soupçonné de tentative d'extorsion, le nom de l'attaquant du Real Madrid, une nouvelle fois évoqué et pas pour du football. Une lanceuse d'alerte convoquée pour licenciement, Emmanuel Amar, a révélé les cas de ses enfants nés sans bras ou sans main dans l'Ain. Elle sera l'invitée de RTL Midi. Autre invité dans quelques minutes, François Carlier de l'association de consommateurs CLCV. Nous parlerons du cartel du jambon et d'une éventuelle entente sur les prix des barquettes en supermarché. Le gaz encore plus cher le 1er novembre prochain pour vous chauffer, pour cuisiner. 9e hausse du tarif du gaz depuis janvier dernier. La météo, Patricia Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Soleil et douceur cet après-midi.
Ah, c'est toujours l'été avec les températures qui sont encore bien au-dessus des normales de saison, jusqu'à 27 degrés cet après-midi à Ajaccio, 23 degrés à Grenoble et La Rochelle, 22 à Aurillac, 20 degrés à Paris, Biarritz, 17 à Brest et Lille. Et le temps est très ensoleillé avec simplement quelques passages nuageux sur les Hauts-de-France, quelques développements nuageux en fin de journée sur les Alpes. Et puis c'est un petit peu plus nuageux du côté des Pyrénées avec là quelques averses à caractère orageux. En fait, on est en marge d'une grosse dégradation pluvieuse qui touche en ce moment l'Espagne.
Merci Patricia, on vous trouve à la fin de ce journal. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Bénédicte.
À 13h, les auditeurs ont la parole. Alors de quoi allez-vous débattre ?
À votre avis, Johnny Hallyday, bien sûr. Est-ce que vous aimez ce nouvel album ? Est-ce que vous aimez toutes les chansons ? Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas assez de chansons, j'allais dire de variété française ? Là, on est sur du rock, rockabilly, tradition Johnny. Et puis, vous pouvez également évoquer les vacances. C'est les vacances, 15 jours de vacances. Est-ce qu'elles seront trop longues pour vos chères petites têtes blondes ? Ou tous les autres sujets possibles, bien évidemment, 13h, 14h.
Vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. À tout à l'heure, Pascal.
RTL Midi.
Si je tremble, si je n'ai plus peur des adieux.
C'est cette voix qui nous fait frissonner aujourd'hui partout en France, Johnny Hallyday, qu'on entend enfin avec cette chanson « Pardonne-moi », l'un des 10 titres de cet album enregistré en août 2017, le 51e album studio de la star « Mon pays, c'est l'amour », déjà disque de platine. Depuis minuit, les 100 000 précommandes avaient déjà été enregistrées et aujourd'hui, vous vous précipitez sur les plateformes de streaming et dans les magasins. À Lille, Frank Hanson, il n'y a pas que les fans qui sont à la caisse.
Ah oui, elle s'est laissée tenter dès l'ouverture, le CD en main. Daisy, une petite retraitée lilloise, repart discrètement avec ce dernier Johnny.
Je ne suis pas une fan à me rouler par terre ou à pleurer toutes les larmes de mon corps, mais ceci dit, vous voyez, je suis quand même venue de l'acheter.
Parce que c'est Johnny, quoi.
Parce que quand même, il a une voix extraordinaire. Et puis, c'est ma génération.
Ce n'est pas l'émeute, mais un flot continu aux caisses avec les vrais fans du Nord qui retrouvent leur idole.
Le vinyle et puis le CD, plus de temps qu'on attendait avec toutes ces histoires d'héritage, tout ça. Johnny sera toujours là, hein. Il partira jamais.
Là, c'est encore avec plus d'émotion, des textes magnifiques. Ouais.
Je suis fan de Johnny depuis 35 ans. J'ai tout suivi hier soir, le déroulement de la sortie de l'album à partir de minuit une. J'ai déjà les titres en tête. J'en parlerai au diable. C'est l'une de mes préférées. Je te pardonne, j'adore aussi et je ne suis qu'un homme. On retrouve notre Johnny comme on l'a toujours connu.
Jérôme, venu spécialement de Douai acheter le vinyle, a du mal à résister au phénomène.
L'attente a été très longue. J'ai commencé à aimer Johnny en 81. C'est sûr que c'est de plus en plus commercial. Tout ressort, quoi, et on est obligé de faire des choix. Il y en a tellement. C'est trop, quoi. Ça reste des belles pièces.
Et le directeur du magasin s'attend à voir ses ventes s'étaler sur plusieurs mois.
Frank Hanson à Lille pour RTL, toute la journée sur notre antenne. Un titre diffusé par heure et demain, n'oubliez pas, émission spéciale de 10h à 11h30, Johnny encore et encore, avec dans ce studio Laetitia Hallyday qui se confiera à Marc-Olivier Fogiel et Anthony Martin. C'est l'épine dans le pied de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise a été entendu hier par la police anticorruption à Nanterre. Et ce matin, c'est son ancienne directrice de la communication pendant la campagne présidentielle, Sophia Chikirou, qui répond aux questions des enquêteurs. La France Insoumise et son dirigeant sont visés par deux enquêtes préliminaires sur les comptes de campagne et les emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires européens, ce qui a déjà donné lieu à des perquisitions mouvementées. Nicolas Burnand, vous êtes devant les locaux de la police judiciaire.
Oui, depuis ce matin, Sophia Chikirou est entendue dans le bureau des enquêteurs financiers en audition libre. Au cœur de leurs interrogations, la société de relations publiques Mediascope. Dans cette très proche de Jean-Luc Mélenchon et la dirigeante, cette société bénéficiait d'un contrat privilégié avec la France Insoumise lors de la dernière campagne présidentielle. Elle a facturé plusieurs centaines de milliers d'euros de prestations aux candidats, alors même que Sophia Chikirou était directrice de la communication de la campagne. Un mélange des genres qui intrigue les enquêteurs. Ils cherchent à savoir si ce montage a pu dissimuler des manœuvres financières illégales. Sophia Chikirou devra donc s'expliquer sur la nature de ses missions. Par exemple, la réalisation de clips de campagne, de produits promotionnels, d'animation lors de meetings, des services facturés parfois à des prix très élevés. L'avocat de Sophia Chikirou dément toute irrégularité et promet que sa cliente répondra à toutes les questions des enquêteurs.
Nicolas Burnand à Nanterre pour RTL. Le nom de Karim Benzema apparaît dans une nouvelle affaire judiciaire après le scandale de la sextape. Cette fois, c'est l'entourage du joueur du Real Madrid qui est accusé de tentative d'extorsion. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire. Des informations révélées par Mediapart, Olivier Bois. Cette fois, il s'agit d'un agent sportif travaillant pour le footballeur qui a déposé plainte.
Oui, un homme qui s'appelle Léo. Vous savez, ce genre de personnage qui gravite autour des grands footballeurs à moitié agent non officiel, à moitié homme à tout faire et surtout souvent ami intéressé par l'argent. Et ce Léo explique d'ailleurs dans sa plainte qu'il y a à l'origine une brouille avec Benzema qui l'accuse de lui avoir volé 50 000 euros. Et il affirme donc que deux amis du footballeur le 7 octobre dernier ont tenté en vain de l'enlever devant un bar à chicha à Paris pour régler cette affaire. Benzema n'était pas présent pour cette expédition, mais il était à Paris ce soir-là. Et ce qui étonne maître Joseph Cohen-Saban, qui est l'avocat du plaignant, c'est ce qui s'est passé juste après l'altercation.
Moi, j'ai des gens qui sont de son entourage direct. J'ai un conflit avec M. Benzema. Ces gens viennent, me cassent la figure et essaient de m'embarquer de force dans un van. Ils ratent et ils vont voir tout de suite après M. Benzema pour lui faire soit un compte-rendu, soit pour aller lui parler du dernier match du PSG auquel il n'a pas assisté. Je crois que ça suscite à minima des interrogations. Maintenant, moi, je ne dis pas que M. Benzema est le grand Manitou qui est caché derrière tout ça. Je ne dis rien pour l'instant.
Et non, c'est la police judiciaire parisienne qui dira ce qu'il en est, puisqu'une enquête est ouverte. Karim Benzema, lui, dément catégoriquement la mise en cause. Son avocat, maître Cormier, affirme envisager porter plainte, même pour dénonciation calomnieuse.
Olivier Bois, du service police-justice de RTL. Pour la première fois depuis 11 ans, Michel Fourniret est confronté à son ex-femme, Monique Olivier. Le couple s'est retrouvé ce matin dans le bureau d'une juge d'instruction. Le tueur en série a récemment reconnu deux nouveaux meurtres dans Lyon, ceux de Johanna Parich en 90 et de Marie-Angèle Domès en 88. L'ogre des Ardennes est en prison depuis 2008 pour 7 autres meurtres et son épouse pour complicité dans 5 d'entre eux. RTL vous parle depuis plusieurs jours de l'affaire des bébés mal formés, sans bras ou sans mains. 7 cas d'enfants notamment avaient été détectés dans l'Ain entre 2009 et 2014. Et on l'apprend aujourd'hui, la chercheuse qui a sonné l'alarme vient d'être convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 31 décembre prochain. Nous sommes avec cette lanceuse d'alerte, Emmanuelle Amar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale du REMERA, le registre des malformations en Rhône-Alpes. Quelles raisons vous a-t-on invoquée pour cette procédure de licenciement? Qu'est-ce qu'on vous a dit en vous convoquant?
Alors, je dois dire que c'est l'ensemble de l'équipe du registre qui est licenciée. Le motif, il est très clair. Comme nous, ce sont des contrats de droit public, le licenciement économique n'existe pas. En revanche, c'est un licenciement pour perte de poste, tout simplement parce que les hospices civils de Lyon, le CHU, qui avance nos salaires, n'a pas reçu les financements pour l'année 2018 permettant de financer nos salaires, puisque je le rappelle, le CHU avait accepté d'accueillir l'équipe du registre à condition que ce soit une opération blanche. Et Santé publique France, l'INSERM et la région, pour 2018, n'ont pas financé le registre.
Alors, est-ce que vous croyez vraiment qu'il s'agit de ces complications budgétaires ou est-ce que vous payez le fait d'avoir sonné l'alarme dans l'affaire de ces bébés mal formés ?
je crois quand même payer le fait d'avoir sonné l'alarme, mais si on a sonné l'alarme, c'est aussi parce qu'on était une petite structure agile, qui innovait beaucoup et qui avait la capacité de professionnaliser entièrement notre activité, ce qui faisait qu'on avait des bonnes données. Cette recherche-là, elle a été validée par un conseil scientifique composé des plus grandes sommités, tant de l'épidémiologie, de la biostatistique que des malformations. Et c'est eux, à travers moi, qui sont aussi vilipendés. On a un article du Monde où des scientifiques interloqués par la conférence de presse de santé publique France oui. disent, mais enfin, il est évident que l'agrégat de malformation de l'un est réel. Il est évident qu'il y a un excès de cas.
Et
sept enfants. Mais la position de Santé publique France dès le départ est devenue intenable. Alors, ça serait reconnaître qu'il n'y a rien eu en 2011, ça serait reconnaître qu'il n'y a rien eu en 2014, puis ce serait reconnaître qu'il n'y a rien eu en 2016. La position, elle consiste à dire on se débarrasse de tout et on circule, il n'y a rien à voir.
On s'enlève
et dans
les
quelques
mains.
Temps, on aura tout oublié.
Aujourd'hui, est-ce que vous en appelez à la ministre de la Santé, à Agnès Buzyn? Vous avez
des
contacts?
Pendant longtemps, on n'a pas pu arbitrer. Non, on a la directrice générale des hospices civils de Lyon, tous les cliniciens disent on a besoin de Romera, on en a vraiment besoin. On écrit à la ministre qui n'a jusqu'à présent jamais répondu. Elle ne pouvait pas faire d'arbitrage sur les décisions INSERM puisque son époux était directeur général de l'INSERM.
Voilà, il pouvait y avoir conflit d'intérêts.
Voilà. Il pouvait y avoir conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts perdure. Puisque
mais aujourd'hui, est-ce que vous demandez un rendez-vous à Agnès Buzyn?
Alors, nous l'avons demandé à plusieurs reprises. Il semblerait qu'il y ait peut-être des pistes pour pouvoir l'interroger directement et même publiquement.
Merci Emmanuel Amar. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du REMERA, le registre des malformations en Rhône-Alpes. Dans un instant, la mauvaise nouvelle pour votre porte-monnaie, la 9e hausse du prix du gaz depuis janvier dernier.
RTL Midi, Bénédicte Tassard.
12h45 sur RTL. Il fait encore doux, mais préparez-vous à recevoir une facture de gaz salé, plus 5,4% de hausse pour les tarifs réglementés le 1er novembre prochain, 16,4% pour depuis janvier dernier. Ça commence à faire beaucoup. Le gaz plus cher, est-ce que ça va durer, Martial Liu?
Écoutez, c'est déjà quasiment un an de hausse non-stop pour les 4,5 millions de foyers français qui sont encore aux tarifs réglementés. Et pour autant, heureusement, la commission de régulation de l'énergie qui encadre ces tarifs, estime qu'on va sans doute vers une stabilisation dans les prochains mois, voire une baisse, il serait temps. Aujourd'hui, le prix du gaz est fixé en fonction de l'évolution des cours du baril de pétrole, des coûts d'approvisionnement, parce que Engie, qui est le premier fournisseur, importe évidemment son gaz de l'étranger pour la grande majorité. Le pétrole a beaucoup monté ces derniers mois, on le sait, mais il est plutôt en train de se stabiliser. Les frais, les taxes aussi. En fait, tout va dépendre maintenant des tensions internationales et, pour dire les choses clairement, de l'état des relations entre l'Amérique et les pays du Golfe. Si Donald Trump durcit son discours à l'égard de l'Arabie Saoudite ou de l'Iran, si le commerce international est malmené par le bras de fer États-Unis-Chine cette fois, alors on peut avoir de nouvelles hausses, mais sinon, on devrait passer l'hiver au calme.
À suivre donc, merci Martial Liu. Tout n'est pas bon dans le jambon, les industriels sont dans le collimateur de l'autorité de la concurrence. Pendant 2 ans, Armelle Lévy, 14 entreprises se seraient mises d'accord sur les prix à la vente, mais aussi à l'achat.
Oui, ces industriels se seraient coordonnés pour s'approvisionner à bas prix en jambon auprès des abatteurs de porc, donc pour faire baisser le prix d'achat, mais ils se seraient coordonnés aussi pour vendre leurs produits plus chers à la grande distribution. Comment ? En s'arrangeant pour donner les mêmes réponses aux appels d'offres lancés par les supermarchés. Pour les jambons, les lardons, les saucissons premier prix et de marque distributeur. Ces pratiques illégales auraient duré de janvier 2011 à avril 2013. Une entente sur les prix dans les deux sens, à l'achat comme à la vente, c'est inédit, une première dans l'histoire de l'autorité de la concurrence. Une première aussi par le nombre d'entreprises soupçonnées, 14 charcutiers industriels qui risquent une amende salée l'année prochaine à l'issue de l'enquête. Mais ce qui n'est pas une première, c'est une entente dans la filière porcine. Le gendarme de la concurrence a déjà condamné 5 abattoirs il y a 5 ans à payer 4,5 millions d'euros pour avoir diminué de façon coordonnée leur abattage de porc, donc pour faire baisser le prix de la viande payée aux éleveurs.
Merci Armelle Lévy du service économique de RTL. Avec nous, pour aller plus loin, François Carlier, délégué général de l'association de consommateurs CLCV. Bonjour François Carlier.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes surpris par cette histoire de cartel dans le jambon ?
Non, parce que sur la présente décennie, il y a beaucoup d'enquêtes d'infractions à concurrence sur tout ce qui est grande consommation alimentaire. Il y avait déjà eu la question des abattoirs, ça avait été cité. Il y a eu le cartel du lait qui a été ouvert il y a 2-3 ans par l'autorité. Sur les endives aussi, et là sur le jambon. On pensait que les infractions à concurrence, c'était surtout le BTP puis le télécom, par exemple. On voit en fait que dans l'agroalimentaire, ça a aussi lieu, ce qui permet de dire que c'est pas que des secteurs très concurrentiels où il y a des guerres des prix, loin s'en faut.
Mais là, 14 entreprises, hein, quand même, ça fait beaucoup.
Oui, c'est l'aspect qui est un peu étonnant. D'habitude, les ententes, c'est à 3 ou 4. Là, 14, ça fait beaucoup. Bon, mais ils y sont arrivés. Alors, en même temps, c'est peut-être pour ça que quelqu'un, après, finalement, a dénoncé l'entente. Mais, vous voyez, ce que je tenais à dire, c'est que, dans le cadre des discussions sur l'alimentation, il y a toujours le discours qui consiste à affirmer qu'il n'y a que des guerres des prix au profit des consommateurs avec des prix très, très bas. En réalité, on voit très bien qu'il n'y a pas que des guerres des prix. Il y a aussi des ententes sur les prix qui sont à la fois préjudiciable pour les consommateurs et pour les agriculteurs.
Alors justement, pour le consommateur, c'est quoi la conséquence ? Quelle est la conséquence ?
En fait, la conséquence est très tangible s'il y a entente sur un grand nombre de produits. Là, en gros, vous pouvez considérer que la barquette de jambon a dû être 20 centimes plus cher. Donc finalement, on ne s'en rend pas compte et si c'est que ça, ce n'est pas très problématique. Mais s'il y a un cartel du jambon, du lait, de la lessive qui a été aussi condamnée, etc., etc., à ce moment-là, c'est tout le panier du supermarché, le caddie, qui peut être 10 ou 15 euros plus cher parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui s'entendent. C'est bien pour ça qu'il faut qu'il y ait une police, entre guillemets, et que cette police, c'est l'autorité de la concurrence. S'il n'y avait pas cette police, cette entente sur les prix, ça serait 20 centimes de plus sur la barquette de jambon, mais X centimes de plus sur tous les produits du supermarché, et là, ça poserait un problème de pouvoir d'achat.
D'accord, merci beaucoup François Carlier d'avoir été l'invité de RTL Midi. Une pause et dans un instant, de plus en plus de fractures dues à l'ostéoporose.
RTL Midi, Bénédicte Tassard.
Une femme sur 3, un homme sur 5 souffre de l'ostéoporose après 50 ans. Vous pensez que c'est beaucoup ? Eh bien, sachez que le nombre de cas va grimper de 25% d'ici une dizaine d'années, selon un nouveau rapport publié à la veille de la Journée mondiale de lutte contre l'ostéoporose. Et un constat, quand on se soigne, on s'en sort. Exemple avec Sylvie qu'a rencontré Odile Pouget.
Pour Sylvie, les premiers signes de l'ostéoporose sont survenus juste après ses 50 ans, des fractures en rafale.
Je suis tombée, je me suis cassé les côtes de ma hauteur. Deuxième fracture, je me suis cassé les os du bassin. Troisième, en ratant une demi-marche sur une terrasse, je me suis cassé le poignet gauche.
Trois fractures en 5 ans, avec des retentissements importants au quotidien.
Ça joue un rôle dans l'équilibre. Je vais pas monter sur un escabeau, ça c'est interdit. Aller chercher les choses qui sont tout en haut, c'est pas évident. Sans compter les problèmes pour s'habiller, une autonomie très diminuée. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte avant d'être passés par là.
C'est un examen très simple, une ostéodensitométrie, qui révélera quelques temps plus tard la maladie.
Vous êtes sur une table d'examen et c'est une machine qui va passer au-dessus de vous, qui va s'arrêter à certains endroits. Ça mesure la densité osseuse.
Injection, comprimé, perfusion, Sylvie sera sous traitement pendant 15 ans. Aujourd'hui, plus aucune fracture et
juste une ampoule de vitamine D tous les mois, mais sinon je vis beaucoup mieux.
Moins de 20% des patients sont aujourd'hui correctement pris en charge.
Odile Pouget pour RTL. Les vacances de la Toussaint débutent ce soir et Bison Futé voit des perturbations à la sortie des grandes villes en fin de journée. La soirée est d'ailleurs classée orange en Île-de-France. Les professionnels se préparent à accueillir les touristes. C'est le cas à Portivy, petit village de pêcheurs bretons dans la presqu'île de Quiberon. Chantal y tient le bar L'Annexe.
On a et des goélands, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est rigolo et c'est local. La Bretagne, c'est ça aussi, la mer et les oiseaux. L'été indien se prolonge, donc il faut en profiter. Et puis on a un point de vue magnifique avec des bateaux qui sont encore dans le port. C'est dû au temps exceptionnel aussi. On a un point de vue magnifique. Je pense que les gens seront là la Toussaint. On peut aller sur la plage, il y a encore des courageux qui se baignent, hein, faut le dire, mais se baigner, elle commence à être froide. Donc moi, j'irai pas, ça c'est sûr.
Chantal Pas-de-Doigt avec Nicolas Bobby et les mouettes, bien sûr. Les standardistes du 32-10 se préparent pour les auditeurs. On la parole. Pascal Pro, qu'est-ce que vous avez retenu dans cette actualité du 19 octobre ?
Johnny, bien évidemment. Oui. Johnny, est-ce que la voix de Johnny vous a convaincu ? Est-ce que les chansons vous ont plu ? Et puis, ce dernier sujet, les vacances. Est-ce que ces vacances de la Toussaint sont trop longues ?
15 jours.
Vous vous souvenez, quand on était enfant, on avait 3 jours à la Toussaint. On avait 8 jours en février.
Il y a un moment déjà, Pascal Pro.
On on a été enfant il y a un moment, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vacances désormais. Il y en a peut-être trop. En tout cas, 32 10, vous pouvez donner votre avis. 15 jours, c'est beaucoup. Hein. Il y a encore 5 ans, c'était 10 jours simplement.
Une semaine et demie. Merci Pascal.
À tout de suite.
À tout de suite. La météo, Patricia Charbonnier. Un après-midi sous le soleil avec des températures printanières.
Là, justement, ça démarre bien pour les vacances de la Toussaint, puisque c'est le retour de l'anticyclone sur l'ensemble du pays. On a simplement quelques passages nuageux cet après-midi au nord de la Seine, quelques développements nuageux en fin de journée du côté des Alpes. Et puis du côté des Pyrénées, là, c'est un petit peu plus nuageux. On a encore quelques averses à caractère orageux, mais uniquement sur les reliefs. Là, on est en marge d'une grosse dégradation qui touche depuis hier après-midi une partie de l'Espagne avec de fortes pluies, notamment dans la région de Valence. Mais a priori, ces précipitations vont rester sur l'Espagne. Et c'est un très beau week-end qui s'annonce. Surtout que les températures sont encore au-dessus des normales de saison. Cet après-midi, 17 à Brest et Lille, 20 degrés à Paris et Saint-Jean-de-Luz, 21 à Nancy et Lyon, 23 à La Rochelle et jusqu'à 27 à Ajaccio.
Et donc ce week-end qui s'annonce aussi ensoleillé.
Deux jours de plein soleil. Toujours cet anticyclone qui résiste du nord jusqu'au sud, ciel bien dégagé. Alors demain matin, localement, on peut avoir quand même des bandes brouillard. On a un petit peu d'humidité et ces brouillards pourront être localement denses, notamment dans les plaines du sud-ouest, mais après dissipation de cette grisaille. Ce sera vraiment très agréable dans l'après-midi. Toujours un petit peu d'instabilité sur le relief, donc sur le sud des Alpes et sur les Pyrénées, avec des températures comprises entre 5 et 18 degrés. Donc localement, ce sera un petit peu frais demain matin, notamment sur le quart nord-est ou encore le centre-est. De la douceur dans l'après-midi, 16 à 26, c'est exactement le même type de temps pour dimanche. Vraiment un très très beau week-end. Il faut en profiter. La semaine prochaine, ce sera un peu plus frais, surtout le matin sur la moitié nord et un petit peu plus nuageux.
Bon, pour l'instant, on vous aime encore, Patricia Charbonnier. Vous pouvez revenir dans un instant. Le rappel des titres avec Alexandre de Saint-Aignan.